les 10 heures à Paris. Voici donc les trésors des musiques africaines.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Bonjour, 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 mon cher Tito. Bonjour et bon dimanche, Odoin Manou, and welcome back, mais pas qu'à toi, moi aussi. Sauf que toi,
un double welcome back.
Un double welcome back en ce 20 mai, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est le Cameroun avec un K qui est célébré. Alors dis-moi, Kampala...
Avec un K ou un C, hein,
ou un C,
bon,
oui.
On peut commencer par là, déjà.
Déjà, oui, parce que, oui, ben voilà, cette fête, elle est très spéciale, parce que c'est pas une fête dite de l'indépendance comme les autres pays d'Afrique. Explique-nous ça, Douai Manou.
Bien, elle est comme le Cameroun. Le Cameroun a le mont Cameroun qui a 4000 et quelques... À quelques mètres près, on avait la neige. C'est déjà... Bon. Et ensuite, ce mont Cameroun, il est très mystérieux. Il sort pas tout le temps. Donc, il est comme le Cameroun, on sait pas. Mais on est là. Alors on dit là, entre les Anglo, entre les Franco, et des fois le mélange tourne bien, des fois le mélange il est à revoir, mais tout le monde est là au moment où du football, par exemple, quand il y a des matchs de football, tout le monde est tout d'un coup camerounais, mais alors 1000% quoi, jusqu'à la fin du match. Chacun s'en va après de
ben là, jusqu'à la fin de la CAN quand même.
Et oui, pour l'instant, la CAN, je sais pas, il y a des Dolby là-dessus. Non
ah, mais vive à la CAN, on le dit comme ça. On préfère que ça se tienne au Cameroun.
Voilà, pour l'instant, logiquement, sur les papiers et tout ça, doit se tenir au Cameroun. C'est quel mois déjà, au mois de novembre?
Ah ben ça arrive très... Oui, ben, les calendriers bougent un petit peu, mais bon, c'est la décision tombera par là, mais la période de l'année après, Patrick Boma, tiens, qui écoute souvent l'émission, vient nous bavarder un peu, Patou, concernant
oui,
cette affaire.
Raconte-nous, t'en sais plus que nous.
Ben déjà, elle est contente parce que le prix Marc-Vivien Fauré a été décerné à Karl Toko Ekambi, quand même.
Ouais, c'est bien, Toko,
Lyon,
c'est bien, Toko.
Et qui a maintenu à Angers, eh ben, 17 réalisations, de se maintenir quand même au top.
Angers reconnaissant.
Angers
une fois, Angers a dit non, quand même, sans lui, voilà.
On n'y serait pas arrivé. En tout cas, c'est une anecdote, ce que je disais tout à l'heure, on a voyagé. Tu as été, alors quand on dit Kampala, quand on dit Nairobi, c'est vrai, c'est pas toujours Dakar, Abidjan, etc. Il y a de la musique et on fait de la belle musique.
Les circuits s'agrandissent, les circuits s'agrandissent. Il n'y a pas que le sport, parce que le Kenya est connu, par exemple, que pour le sport. On oublie que il y a la musique parce que, ben, ils n'ont pas appuyé sur ce volet, sauf si tu as la chance d'y aller et tu te rends compte qu'effectivement, il y a de la musique et que depuis très longtemps, il y a de la musique chez eux et de la bonne musique et de la musique diversifiée jusqu'au moment où il y a même un musicologue qui écrit un volume extraordinaire de l'histoire de la musique, des musiques au Kenya, et tu es étonné.
Eh oui, des années 40, milieu des années 40, aux années 2000, c'est un bloc, c'est vraiment alors un Hollybook, pour le dire comme ça, parce que tout le monde est épinglé à l'intérieur. Ça va évidemment du Douai Youg Masekela, le Douai Manou Dibango. On évoque aussi ton petit
Franco,
passe, comme
Franco,
tu l'appelles,
ouais.
Pascal Okwakanza, en parlant
voilà.
De Franco et de tous les autres. C'est très bien documenté et renseigné. Et il y a un clin d'œil quand même particulier, parce que on évoque également l'école de l'expression urbaine. Pour ceux qui pensaient qu'en Afrique, cette touche-là, eh bien, elle était arrivée juste...
Il n'y a pas de hasard, hein.
Après Jay-Z et Beyoncé, désolé pour eux, mais elle était là bien avant. Et il y a la documentation, il y a surtout aussi tout ce qui l'accompagne, Douai Manou, parce que on a...
Il y a des albums.
Des albums, et on parle, c'est vrai, de...
Et des
tout,
DVD là-dedans, avec des notices explicatives, c'est fantastique.
Des collectors, on a évoqué Szilárd et les autres, et eux, ils le font aussi. Retracer l'histoire de Benga et du rythme Benga et du label, c'est plonger dedans, tu as ramené des trésors. On va passer un mois de juin.
Ah ouais, magnifique, parce qu'on va faire un safari musical.
Ça va être un
simplement.
Très beau safari. Et puis on en profite pour saluer Isaïa Katoumoi, qui est à l'origine de ce festival où tu as été, dédié au grand Youg.
Voilà, il y a eu de très bons musiciens que je ne connaissais pas d'ailleurs. Il y a eu des groupes venant des pays avoisinants. C'était formidable. Là, il y a des moments où tu es fier d'être africain quand même, parce que tu te rends compte que Ailleurs, on nous tourne en bourrique. Et il y a quand même des pays qui prennent tout ça au sérieux, quoi. Le mot culture avec un grand C, là, tu le vois, tu regardes, tu es content parce que tous ces gens-là, il n'y a aucun qui est connu par ici.
Et ce qui est bien de Manu, c'est que Isaac a tout le monde, il est musicien, il organise les festivals. Bon, déjà, il taquine d'un instrument que tu aimes beaucoup. Mais je regardais le format, d'ailleurs, de son instrument. Il n'a pas la même taille que je vois d'habitude.
C'est un soprano, mais en forme d'alto, quoi. Et son soprano, il est taillé. En fait, je crois que c'est un modèle unique. On l'a fait pour lui.
Eh ben, on va le découvrir en musique. Isaac, à tout moment, on lui dit bonjour et on lui enverra d'ailleurs un exemplaire de cette émission. On peut même l'écouter sur la toile. Et ouais. Le dimanche, ben, comme tu dis, c'est toujours Way Back pour la première
fois. Way Back, mais d'abord, ce dimanche-là, il est pour les papis.
Les mamies, les papas, les mamans, sans oublier
la progéniture. Alors, comme d'habitude, effectivement, Way Back, il était une fois. Il était une fois quelqu'un que vous avez toujours probablement entendu, mais il y a toujours des débuts, on ne sait pas toujours, on connaît la personne quand elle est dans la plénitude de son art, on connaît rarement les débuts de la personne. Et cette semaine, tu as choisi de nous parler d'un certain Franco de Miamor.
Et oui, après Luambo Makiadi, avant le très grand, le tout puissant Ok Jazz de Monsieur Franco, il y avait d'abord Franco de Miamor et il groupe au Ok Jazz, mais ce sera d'abord notre formule réglementaire.
D'abord, on va passer...
Réclame.
Voilà.
C'est que Franco... Il fut un très bon chanteur aux années 55, avec Rossignol.
Oui, oui.
Rossignol de Rocamambo.
Oui.
J'ai entendu que Marie Catherine Wanga, ma banzo na motema, Nicolo Nicoleka, Awana Katiati Amokili. C'est vraiment que c'était avec Rossignol, hein? Et aujourd'hui, Rossignol, pour Rossignol. Tout j'étais avec lui, le meilleur, deuxième, donc second, c'est Franco. Chant, c'est Franco. D'accord, Rossignol, et c'est vrai.
Marie Catherine Wanga, ma
Puis après ça, je prends le premier morceau maintenant de Franco. Je fais encore la transition, tu vois. Mais je connais pas les paroles, quoi. C'est ça le premier morceau de Franco. Il m'a dit c'est ça sa première composition qu'il a fait pour une certaine Marie Catherine. On lui disait que dans la vie, l'amour c'est plus que tout, c'est plus que l'argent, c'est plus que la puissance, c'est plus que tout, quoi. C'est ça qu'il m'avait dit que c'était sa première chanson. Mais je l'ai fait comme ça, vaille que vaille pour vous, quoi. Mais à un moment, je vais bien le répéter tel que je l'ai conçu, ouais, ouais. Et je vais vous faire ça.
Mais pour c'est nous, c'est beaucoup, parce que je ne connais pas cette disque.
Premier morceau de Franco.
sur Africa numéro 1.
La radio africaine et les merveilles musicales du passé, mais aussi du temps présent. Et ce dimanche, nous passons par l'enfant de Sonabata dans l'ex-Zaïre.
Voilà, l'ex-Zaïre, c'était donc le Congo belge. Et Kinshasa, c'était encore Leroyville. Et donc, il y avait des gamins qui... la musique était, en tout cas, elle était présente, elle est toujours présente, mais la musique était très présente dans la vie du Congolais moyen, ordinaire. Tout se passait toujours dans la musique. Et tu te rappelles, on avait fait une émission sur un livre écrit par un grec pour un peu présenter la musique autrement, parce que pendant très longtemps, on a cru que c'était les Belges qui encourageaient la musique au Congo, alors qu'en réalité, c'était des Grecs qui, eux, entraient dans les villages et tout ça, et qui, eux, c'est eux qui ont encouragé la musique qui est devenue la musique commerciale, quoi. On le sait pas toujours. On a l'impression que c'est les Belges. Eh ben non, c'est pas les Belges. On a amené un livre ici
qui témoignait. Une véritable trouvaille. Et lui, c'est un enfant de Manou, justement, de ses premiers éditeurs de musique grecque. C'est vrai qu'on parle des familles Géronimidis, des Papadopoulos, qui tenaient les labels et les éditions de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils tenaient également les grands commerces.
Opica
et autres, qui faisaient venir, tu
Goma,
le disais,
en fait, tous ces
instruments pour voilà. Jouer de la musique et qui produisaient les chanteurs en herbe ou pas, qui travaillaient dans les sociétés dont ils étaient les propriétaires. Et ces gens-là qui, comme l'écrivain de ce livre, sont un peu comme les Libanais que l'on trouve partout en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'à 2, 3, 4, 5 générations en arrière,
oui.
Ils sont nés à Kisangani, ils sont nés à Elisabethville ou ailleurs, et maîtrisent et connaissent très bien cette musique.
Ils sont arrivés vers le 19e siècle, à la fin du 19e siècle, ils se sont implantés, et c'était des commerçants. Et alors, au départ, en fait, c'était pas un but artistique. C'était parce qu'ils vendaient des objets de cuisine, tout ça, dans leurs magasins, et pour mettre l'ambiance... Ils fabriquaient des disques pour que les gens restent dans... C'était pas uniquement pour les artistes, hein, c'était rien. Au départ, c'était pas culturel. C'était vraiment commercial. La culture est venue après. Naturellement, ils prenaient les gens qui étaient connus, qui mettaient l'ambiance et tout ça. Mais leur but à eux, c'était que leur magasin remplisse et qu'ils achètent des casseroles, qu'ils achètent des cuisinières et tout ça. Ça commençait comme ça. Ensuite, c'est devenu une industrie géré par eux, parce qu'ils se sont rendus... C'est un peu comme les queues de bœuf ici, en fait. Les Français, ils mangeaient pas les queues de bœuf, jusqu'au moment ils ont vu que les Africains commandaient beaucoup les queues de bœuf ici.
À toutes les sauces.
Voilà. Ils jetaient ça à la limite, ils donnaient ça gratuitement. Mais gratuit, quand il y a trop de monde qui demande, ça devient économique.
Et c'est là où ça a provoqué un véritable engouement. Et Franco, l'enfant turbulent de Sonabata, qui lui rêve et croit en sa bonne étoile, pas forcément dans la musique, se dit que c'est un moyen d'expression finalement pour être populaire. Ouais. Et être populaire pour lui, qui dans ses années 50 voit déjà beaucoup de noms arriver et se mettre en avant à l'image des Dewayon et autres, se dit tiens, et pourquoi pas en ma bonne étoile. Et c'est ainsi qu'il commence à taquiner les groupes et les petites formations de l'époque et qu'il crée le sien, c'est-à-dire Il Gruppo Ok Jazz. Et là nous sommes en 56.
Voilà, il n'est pas seul, il y a Serge Essou.
Et oui, Essou.
Donc il y a deux Congos en fait qui se mettent ensemble, parce que Essou, lui étant de Brazzaville, il franchissait tout le temps le fleuve pour aller faire cet orchestre. Et l'Ok Jazz ça a été fait en plusieurs coups, comme au 421 quoi. ça n'a pas été directement Ok Jazz quoi.
Ils sont passés par des transitions, le Dwayne Manou, c'est bien de le préciser, parce que Il Gruppo Ok Jazz, parce que c'était les Espagnolades. Ok Jazz pour cette formation Kinshasa Jazz, tout puissant qui viendra ensuite. Mais alors d'abord, c'était Orchestre Quinois pour Ok, alors que nous, on pensait tout simplement...
Il y avait un bar.
Ça s'appelait
Ok Bar.
L'Ok Bar d'Oscar Kachama. Ça veut dire que ce sont des grands noms de l'époque qui sont des gens qui vont écrire la musique qui deviendra légendaire ensuite. Et il faut quand même dire, Dwayne Manou, que Franco, alias François Macchiadi, anime déjà plusieurs soirées dans ses bars et dans ses endroits, et qu'il devient un peu ce qu'on appelle un artiste à la mode. Et cette mode va lui permettre de devenir quelqu'un de très très important sur la place de Léopoldville de l'époque.
C'est exact, il était très populaire. Jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, c'était quelqu'un qui était très populaire. Il avait une guitare, il avait un son, et il avait une façon d'aborder les pieds des danseurs. Sa guitare est collée tout à fait avec les pieds des danseurs. Et quand Franco jouait, tout à l'heure, on va bavarder avec quelqu'un qui va bien expliquer, tu vois, à un moment donné où la musique colle. Parce que la musique de Franco, il y a le son et il y a les pieds.
Et les deux vont
voilà, ensemble. Voilà, les deux vont ensemble, ça te donne envie de bouger. Et il a deux phases. Il a toujours la petite phase où il raconte sa petite histoire, et puis la deuxième phase où c'est l'ambiance.
Et quelle ambiance, en tout cas avec lui. Alors c'est vrai que ses premières heures, ce sont pas celles où vous allez écouter Mario, ce sont pas celles où vous allez écouter Liberté, ce sont pas celles où vous allez écouter des morceaux comme Mouzi et autres classiques des années 70, comme pour le dire.
Ah non, Mouzi c'est déjà
c'est déjà plus tard.
Le zénith de l'affaire.
Et là, on est vraiment dans ces années de braise où Franco et son ami Rossignol, c'est quand même un nom qui est tout prédestiné.
Il y a Rossignol, Tino, enfin tout ça.
Tino enchante déjà les bars et il chante souvent les noms des dames. Donc c'est toujours des noms qui se rappellent au bon souvenir de ces grandes dames qui représentent un peu l'élite en beauté.
Il faudrait un dictionnaire en fait pour voir ce que tous les musiciens d'Afrique ont chanté. Quand c'est pas Madeleine, c'est Loli. Quand c'est pas Loli, c'est Lili. Quand c'est pas Lili, c'est...
Enfin, Valentina.
C'est la Valentina Chiquita la noche. Oh, les Espagnolades d'ailleurs. Hein, parce que la première période de Franco, c'est beaucoup d'Espagnolades.
Et il y en avait tellement, en tout cas pour les premiers tubes, c'est des succès comme Marie Kato, alors ça c'est pas mal, Marie Kato et Bayninga et Ponayo, c'est-à-dire les gens m'en veulent à cause de toi, c'est des morceaux comme Musica Telema, c'est-à-dire la musique qui en chante et qui met tout le monde debout, et le son de Amanou, pour l'analyser en pensant à Odoin Bokilo, Jerry Malekani, c'est toujours cette trouvaille incroyable pour la sonorité des guitares.
Oui, ils avaient trouvé une sorte de reverb qui était dans les amplis, mais les Occidentaux n'aimaient pas ça. Et c'est ça que les Africains, ils aimaient. Et Bokilo, lui, il avait horreur de ce son. Il voulait un son plus pur. Et quand il entendait les guitares zaïroises, il aimait bien le jeu, mais il n'aimait pas le son. Et jusqu'au moment où on a fait Merengue Scooby-Doo avec le petit ampli là, avec la fréquence du vibrato, a fait donc le merengue, hein, parce qu'ils ont calé le rythme du merengue sur le vibrato.
Le fameux steamer. Moi j'ai appris.
Voilà, c'est le steamer qui pouvait donner ça.
Et Franco et ses acolytes à l'époque posent sur les pochettes de disques avec une veste, avec des cols roulés. Ils ont les tumbas, mais alors très hautes. Moi j'ai jamais vu de percussion de cette taille. Je disais à feu mon papa, Jean-Pascal Brazin, disait mais les percussions étaient plus grandes que vous. Elle leur arrivait quasiment au torse.
Mais le Congo a toujours eu le look. Hein. En fait, en général, il y avait même des couturiers comme à Brazza, il y avait quelqu'un, là, je ne me rappelle plus du nom, qui produisait d'ailleurs l'orchestre de Brazza, que tout le monde connaît.
Les Bantous.
Les Bantous, et c'est lui qui les habillait. En même temps, c'était un grec. Voilà. Mais en général, c'était des smokings un tout petit peu en deux ou trois couleurs, quoi. Tu vois, il y avait déjà la couleur dans les habits. Ils avaient une présentation des orchestres un tout petit peu comme les Cubains. Les Cubains étaient toujours très bien habillés. Et bien de l'autre côté de la pirogue, si je peux dire. Au Congo, les orchestres étaient avec nœuds papillons, smoking et tout ça. Évidemment, ils avaient deux ou trois costumes, mais il n'y en a pas deux qui venaient avec le même costume. On disait aujourd'hui, on va s'habiller en blanc. Eh ben Nico arrivait avec un pantalon noir, un chemise, voilà.
En tout cas, la musique, elle, au moins, étant en harmonie,
voilà.
Ça n'a pas de problème. Elle est également dans un morceau Aya la mode, parce que tout devait être
mode. On parle de la mode. Voilà.
Et impeccable. Et cette première partie, en tout cas, de ce jukebox, eh bien, si vous entendez des craquements ou le son du vinyle, ce n'est pas votre radio.
Non, ça sort du vinyle et ça fait du plaisir d'avoir un petit son. Un peu comme ça. Alors, le modéliste, c'était Stenko.
Voilà, ah
ça,
oui,
ça me revient
Stenko.
Tout de suite.
Stenko.
Voilà, Stenko, c'était un grec qui habillait donc les orchestres à cette époque-là. Donc, ce craquement-là, de plus en plus, les gens, ils ont envie d'écouter. Parce que tout est numérique maintenant, tout est propre, tout est léché. Et en même temps, c'est d'une monotonie.
Et nous, on n'aime pas la monotonie, le
dimanche. Alors, on va mettre un jukebox en route. Hein.
Et oui, et c'est à Valentin de nous mettre un objet dans le
bass-string. Une thune dingue.
Le bass-string.
Yes.
Sur Africa numéro 1.
Aya Maria, Aya Polina, Aya Sabina, Petie, Venga de Pisa, Caramba, yo te quiero. Aya Maria, Aya Polina, Aya Sabina, Petie, Venga de Pisa, Caramba, yo te quiero. Thank you.
avaient célébré leur 20e anniversaire en 1976, un événement qui avait été récupéré, on peut le dire, par le régime Mobutu de l'époque, Franco posant un abacoste. Mais le Doyen Manou et moi, ce dimanche, avons d'ailleurs choisi de remonter aux toutes premières années où l'artiste n'avait ni le même tour de taille, ni le système, il y a 1, 2, 3.
Non, ça c'est beaucoup plus l'affirmation quand il est au zénith. Ça c'est une autre époque dont on parlera un jour, parce que en fait il était aussi un bon homme d'affaires, hein, parce que créer un club en plein dans la cité, l'appeler 1, 2, 3, ça dépendait de tes moyens si tu pouvais monter au troisième, quoi. Il y avait pour toutes les bourses, quoi. Mais ça c'est avant, ça c'est après ça. Mais là nous sommes au début de la carrière de quelqu'un qui est très populaire et qui commence à faire sa place, qui a sa place et qui va commencer à monnayer par contre sa place. Par la suite, il y a des disques qui sont faits en Europe et tout ça, et dont le producteur est un concurrent en même temps, Cabasele.
Et oui, et Cabasele voit grandir d'ailleurs l'aura de ce Franco qui lui aussi pense à s'entourer de musiciens brillants, des musiciens qui iront d'ailleurs dans les deux formations,
oui.
Lorsque l'on parle d'un certain Mujos.
Mujos, c'est pas le Mujos dont on parle souvent qui est du
Tchad. C'est pas notre ami tchadien infirmier.
Infirmier, c'est ce Mujos-là qui naviguait d'ailleurs entre les deux orchestres. Moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, à Léopoldville, donc c'était Mujos, c'était avec... avec nous, avec Rochereau, c'est après qu'ils se sont séparés. Mais ils étaient tous ces deux chanteurs-là étaient chez Cabasele, quoi.
Et il y en aura beaucoup d'autres qui rejoindront la formation d'ailleurs chez Franco. On a parlé évidemment du Johan Joski Kambukuta et avant lui le papa d'Awilo, Vicky Longoba.
Oui, Vicky.
Et la formation dit le groupe OK Jazz, au départ Franco insiste pour qu'elle soit pas déjà pléthorique faute de moyens, mais tout le monde a un rôle bien déterminé. On est vraiment dans une formule mais qui ressemble presque à celle du Rico, c'est-à-dire qu'il y a un guitariste, il y a un percussionniste.
Il y a un minimum important. Chacun a le rôle imparti. Les chœurs sont toujours là, de toute façon. La spécialiste. Comme on dit au Cameroun, les basses, et ben la spécialité, on l'oublie souvent, hein, les chœurs au Congo, les chœurs sont toujours parfaits. Mais c'est souvent des duos, c'est pas des trios en général. Il y a pas la tierce. Ils ont souvent deux voix, mais ils harmonisent tellement facilement. Moi, j'étais étonné quand j'allais au studio avec Cabasele. On devait faire une dizaine de titres. Bon, en réalité, il y en avait trois qui étaient prêts. Les autres, il fallait les faire sur place. Les gars, il y en a un qui s'éloignait, quoi, qui écrivait les paroles. Allez, on répétait là. Il mettait en place, mais il n'y avait pas de prise hein, à l'époque. C'est incroyable cette histoire-là avec le studio. On n'en a jamais parlé, quoi. Mais je dois dire que quand ils répétaient leurs paroles, là, une fois qu'ils avaient, ils possédaient donc le texte, pour mettre ça en musique, c'est très facile. Très facile. Ils répétaient pratiquement pas beaucoup avant l'enregistrement final, quoi. Les voix étaient en place. Ils avaient un génie des voix qu'ils ont toujours. Je sais plus maintenant parce que j'écoute rarement la musique du Congo, mais à l'époque, c'était vraiment musical. Et c'était en place et c'était formidable.
Ce génie, d'ailleurs, de Manou, Franco l'a gardé jusqu'à la fin. C'était le côté un peu sociologue qui voit une scène dans un bar et qui en fait une chanson immédiatement. Et c'est aussi la spontanéité de quelqu'un qui mettait surtout le côté musical. On fait une rumba, on fait un boucher, on fait un boléro. Alors là, la rumba, ok, comme un titre qui cartonne. Ou alors les como quiere, chanté en espagnol.
Espagnolade.
Approximatif. Et alors parfois c'est le retour aux réalités du village, l'Uvumbundoki, en parlant évidemment du mauvais œil de celui qui complote contre nous. Finalement, Franco est resté cet enfant, comme il aimait à dire, de la masse, cet enfant du peuple qu'il était déjà au tout début de carrière.
On peut dire qu'il faisait la comme on dirait en anglais, la social music. Il faisait la musique sociale. Voilà, c'était vraiment la musique de quartier, c'était les problèmes qui concernaient les uns et les autres. C'est pour ça qu'il était tellement populaire, parce que on peut pas dire que ces paroles étaient intellectuelles. Elles étaient les paroles émanant, il était le porte-voix finalement du peuple. Voilà pourquoi ce garçon a eu la popularité qu'il a eu.
Avant de tirer sa révérence, c'était un 12 octobre 1989 et tout le monde s'en souvient encore. En attendant, deuxième partie de ce jukebox.
Yes.
Sengandambonga na sengateo, sengandambonga.
sur Africa numéro 1.
Como quiere que si prese alumbre.
Mundungu sintende, mundungu sintende, mundungu sintende, mundungu sintende.
Jazz, et l'histoire continuera encore pendant des décennies puisqu'il sera consacré un des plus grands musiciens africains du siècle.
Et que longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent toujours dans les rues. Eh ben ça courra toujours, Franco.
Et ce qui va courir avec nous, car elle a beaucoup d'énergie et qu'elle est déjà en place, c'est l'artiste Manu Gallo qui vient d'arriver. Bonjour Manu.
Bonjour papa.
Qui arrive.
Bonjour ma chérie.
Alors,
Abidjan
est loin. Je suis une bruxelloise, c'est vrai, je viens de Bruxelles.
Mais pas si loin que ça. Alors tu restes avec nous, car juste après la pub, on va parler de ton nouveau son, de ton nouvel album et de ta collaboration avec Bootsy Collins.
D'accord.
Son aventure américaine.
Africa numéro 1.